Merci d'être branché sur la fréquence de la paix. C'était la Liputa Fali Pupa dans l'album Droit Chemin.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Vous écoutez la radio Okapi, c'est le magazine Okapi Service qui se poursuit en ce moment. Qu'est dit la loi à propos d'un accident de travail? Vous avez été victime d'un accident sur votre lieu de travail ou sur le trajet qui vous y mène. Vous l'avez déclaré à votre employeur, cependant vous avez l'impression d'être abandonné à votre triste sort. Vous devez seul supporter les coûts des soins médicaux et chirurgicaux, les frais d'analyse et de pharmacie. Alors qu'est prévoit la loi congolaise en cas d'accident de travail? On en parle dans quelques instants avec Maître Ruffin Louko, juriste. Maître, bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
Et bon début de semaine.
Également pour toi et tout notre auditeur.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Maître, dites-nous, la première question, c'est de savoir comment la loi définit un accident de travail.
Ah, voilà. Et ça, c'est la chose essentielle.
Oui.
La loi, principalement, la loi de 61, on appelle ça la loi organique sur la sécurité sociale en RDC. Elle considère que les accidents de travail, les maladies professionnelles, les accidents de trajet, tout ça sont pris en charge. Ça veut dire, chaque fois que ça survient, eh bien, il y a un organisme qu'on appelle l'INSS qui est saisi pour prendre en charge. Ce n'est pas l'employeur qui prend ça en charge. C'est l'organisation de la sécurité sociale congolaise.
Alors, donc, c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Alors,
vous venez de me poser directement en coffret comment on définit l'accident de travail.
Oui.
Alors, principalement, ça, c'est la loi qui a donné la base, n'est-ce pas? C'est l'article 20 qui considère que est accident de travail tout événement soudain qui arrive au lieu de travail ou à l'occasion du travail et qui cause des lésions corporelles sur le travailleur. Ça, c'est l'accident de travail.
Par exemple,
un travailleur est en train de par exemple, là-bas, je me rappelle dernièrement, dans une des brasseries ici, de boissons, eh bien, un agent était en train de ranger les bouteilles, n'est-ce pas, et la machine a amputé le bras. Ça, c'est typiquement, typiquement un accident de travail. Évidemment, c'est pris en charge, il y a eu des procès et tout ça autour de ça.
Il a perdu le bras.
Il a perdu une partie, principalement la main. Et ça, évidemment, c'est un accident de travail. Et la loi donne une procédure par rapport, n'est-ce pas, à ce que cet agent-là ou sa famille doit faire pour immédiatement être pris en charge. D'abord, le soin immédiat, donc il faut immédiatement être soigné. Il faut être amené
et
à l'hôpital.
Et ça, c'est la sécurité sociale qui débourse l'agent tout de suite. Il y a tellement de procédures administratives.
La première chose, donc, c'est que les entreprises ont le devoir d'abord de se médicaux à l'aide des travailleurs.
Okay.
Donc, notamment, les brasseries ont des endroits où ils sont abonnés. Ils n'ont pas nécessairement des hôpitaux. Mais par exemple, à l'hôpital général, Ngaliem et consorts, ils sont abonnés ou bien à des cliniques privées pour que l'aide des travailleurs, chaque fois qu'ils ont des situations comme ça, ils soient pris en charge immédiatement. Parce que les maladies comme ça ou les accidents comme ça, il faut une prise en charge immédiate. Et lorsque l'employeur prend ça immédiatement en charge, eh bien, la société, donc l'hôpital, va s'arranger avec l'INSS pour des compensations.
Alors là, il faut premièrement que l'entreprise ait affilié ses travailleurs à l'INSS.
Non, la première obligation de toute entreprise, c'est l'affiliation des travailleurs à l'INSS. Ça veut dire, chaque fois que vous avez engagé des gens dans votre entreprise, il faut les déclarer à l'INSS et à l'INPP. Pour qu'à l'INSS, vous puissiez avoir un numéro matricule, un numéro de l'INSS. Ça veut dire là où chaque fois vous allez déposer leur cotisation sociale pour qu'à la fin de leur carrière, ils puissent, n'est-ce pas, ou à la fin de leur processus professionnel, ils puissent avoir la possibilité de compter sur leur pension de retraite qu'on appelle à la sécurité sociale, les prestations sociales.
Oui.
Voilà, donc il faut déclarer, les travailleurs doivent être déclarés. Parce que chaque fin du mois, vous devez, sur leur salaire, déposer une quote-part, donc une cotisation, pour qu'à la fin de leur processus professionnel, ils puissent bénéficier, n'est-ce pas, de la pension de retraite.
Mais est-ce que ça prend également en charge les cas des maladies? Est-ce que c'est une forme d'assurance maladie aussi?
Oui, mais évidemment. Donc, c'est-à-dire, parmi les accidents de travail et les maladies, donc l'article 20 assimile les maladies professionnelles. Et là, nous avons beaucoup de choses à dire parce que aujourd'hui, la liste des maladies professionnelles s'arrête à 16 maladies seulement. Alors qu'en France, c'est environ 180 maladies. Et en Belgique, c'est au-delà de 160 maladies.
Okay.
Prise en charge par la Sécurité sociale. Donc, la loi congolaise prévoit que cette liste-là, de 16 maladies, depuis 67, n'a jamais été actualisée pour intégrer toutes les autres maladies qui sont ici des nouvelles professions. Par exemple, les professions informatiques ou les professions liées, n'est-ce pas, à l'Internet ou à cette montée fulgurante de la technologie qui s'améliore ou qui se développe tout le temps.
Oui.
Il y a des maladies nouvelles, notamment liées à l'ophtalmologie. Il y a également, par exemple, tous ces laboratoires des photos, de ces... Dernièrement, ici, il y a trois laborantins, n'est-ce pas, de ces maisons, de laboratoires de photos,
oui,
qui sont décédés mystérieusement parce que, tout simplement, ils étaient exposés à ces produits-là, à des rayons, tout ça, et ils sont décédés systématiquement. Et il n'y a
Est-ce qu'on a pu détecter après que c'était à cause de l'exposition?
Parce que notre inspection générale du travail, et ça, c'est ça la difficulté pour le pays, il faut que ces choses-là bougent. L'inspection générale du travail ou l'inspection du travail est chargé de veiller continuellement sur les conditions de travail et l'hygiène du travail. Et c'est par leur inspection permanente qu'ils vont identifier qu'il y a de nouvelles maladies qui sont ici, des nouvelles professions qui doivent être actualisées, notamment sur la liste, pour que ces maladies-là soient également prises en charge par la Sécurité sociale. Parce que si c'est une maladie professionnelle qui arrive, nouvelle, et qui n'est pas sur la liste de 16 maladies, ça ne sera pas pris en charge.
Ça sera pris en charge. Bien, nous avons un auditeur en ligne, Modeste Mwamba, il nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidentale. Modeste, bonjour.
Bonjour, Jody Kachama. Bonjour aux auditeurs de la radio Sapi. Bonjour, même à l'invité.
On vous écoute, Modeste.
D'accord. Merci beaucoup. Le sujet est très intéressant pour aujourd'hui. Malgré cela, je voudrais un peu avancer quelques arguments et puis poser trois petites questions.
Oui.
Je crois que dans le domaine du travail, nous sommes victimes de beaucoup d'accidents, comme l'invité venait de le dire. Et je sais très bien que beaucoup plus d'argent ne sont pas sécurisés au travail, comme le sujet vient d'énumérer certains organes ou certaines structures habilitées à prendre en charge les indemnités. Alors, je voudrais faire savoir aux auditeurs qu'il y a certaines disciplines qui sont habilitées à pouvoir mettre en place pour sécuriser les agents aussi. Là, je voudrais un peu poser la question.
Allez-y rapidement, quelles sont ces questions?
Ok, que l'invité puisse me définir ce que c'est la jurisprudence et quels sont les objectifs principalement que peut se définir l'INSS comme il l'a bien. Et aussi en dehors de cela, je voudrais qu'il puisse me parler un peu de la médecine en faveur avec la psychologie du travail. Merci.
Merci beaucoup. Jadot Ikilimani, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jeudi, bonjour à l'invité, bonjour également aux auditeurs.
On vous écoute, Jadot.
J'aimerais poser une question à l'invité. Est-ce qu'une maladie professionnelle est prise en charge de la même manière qu'un accident professionnel? Mais aussi, est une maladie soudaine survenue au lieu du travail ou à la trajectoire entre les lieux du travail et le domicile, peut-elle considérée aussi comme une maladie, comme un accident du travail? Je vous remercie.
Merci, Maître Ruffin.
Alors, je vais commencer par les derniers. Merci beaucoup pour ces questions-là. Est-ce qu'une maladie de travail est considérée comme un accident du travail? Oui, et la maladie professionnelle, c'est ça le nom, est assimilée à un accident du travail. Et il demande ici également l'accident des trajets sur le parcours.
Sur le parcours.
Alors, je lui explique ce que ça signifie selon la loi. L'accident qui survient sur le travailleur pendant qu'il quitte la maison,
donc son domicile,
sa résidence,
oui,
ou domicile si tu veux, la maison c'est plus facile,
oui,
pour le lieu de travail,
oui,
ça veut dire par exemple il reste à Kipushi pour venir travailler à Lubumbashi, parce qu'il y a des travailleurs de la Jekamine qui faisaient ça,
oui,
et vice versa, le fait qu'il quitte Kipushi pour aller à Lubumbashi et qu'en cours de route
un accident survient
à l'occasion pour lui d'aller au travail, un accident survient, cet accident là des trajets est assimilé à un accident de travail. Donc c'est considéré comme si ça est lié au lieu du travail. Parce que c'est sur le processus.
Et est-ce que l'INSS doit prendre en charge à ce moment-là? Parce que oui. C'est une urgence, il faut rapidement l'amener à l'hôpital.
C'est-à-dire, d'abord, le premier devoir, c'est amener d'abord la personne à l'hôpital.
Oui, et qui doit prendre en charge alors les frais, tous les frais liés à cela?
Ça, c'est l'employeur. Ça, c'est immédiatement l'employeur. L'INSS, lui, parce qu'il y a 15 jours, alors retenez tout le monde que c'est 15 jours qu'il faut avoir déclaré ça à l'INSS. Et ça, c'est soit les travailleurs, mais les travailleurs étaient déjà sinistrés. C'est donc sa famille qui déclare, pas à l'INSS, mais à l'employeur. À l'employeur, ça veut dire le patron, la société.
La société, bien sûr.
Alors, la société, d'abord, vous devez l'informer immédiatement qu'il y a accident, la société vous amène à l'hôpital, et il y a un médecin traitant qui doit établir le certificat médical pour dire que non, voici tel jour, nous avons constaté tel qui a été victime d'un accident, et voici les lésions. Alors, l'accident peut provoquer une incapacité journalière de quelques jours, de quelques mois. Et l'AJA a droit à une indemnité par rapport à cette incapacité-là, parce qu'il ne peut pas travailler. Par contre, l'accident, jusqu'au jour où il va se rétablir, si c'est un accident qui est de nature à être soigné et se rétablir ensuite. Mais si c'est un accident qui, n'est-ce pas, qui a créé une incapacité permanente, le régime de la sécurité sociale est également différent. Et donc, tout ça, nous allons en parler.
Voilà. Et Modeste qui parlait de la jurisprudence, la médecine en rapport avec la législation du travail.
Tout à fait. Donc,
qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, très rapidement, la jurisprudence a eu le mérite de faire évoluer, n'est-ce pas, la définition de l'accident du travail. Alors que la loi avait parlé d'un événement anormal et soudain, la jurisprudence a considéré, la jurisprudence, ça veut dire la solution que donnent les cours des tribunaux, la solution pratique, que pour que ça soit qualifié d'accident de travail, il ne faut pas nécessairement que ça soit un événement anormal. Ça peut être aussi et une méprise du travailleur. Ça veut dire que le travailleur, à force d'avoir beaucoup travaillé, peut se retrouver fatigué.
Oui.
Et à cause de cette fatigue, un événement qui n'est pas anormal survient et lui cause préjudice, c'est-à-dire des lésions. Et lorsqu'on parle de préjudice ici, c'est principalement des lésions sur le corps. La loi voulait que ça soit des lésions sur le corps. Ça peut te couper l'oreille, ça peut te couper le doigt, donc ou t'es blessé par-ci ou par-là.
Parce qu'il était fatigué.
Il était fatigué, donc ce n'est plus anormal, ça devient un accident normal.
Bien sûr.
Mais c'est arrivé. Donc, la jurisprudence a élagué le terme anormal, a considéré que même un accident normal doit être considéré comme un accident de travail et pris en charge par la sécurité sociale.
Voilà. Alors, d'abord, vous avez dit par l'employeur.
Par l'employeur.
Par l'employeur.
La première personne, c'est l'employeur.
C'est l'employeur.
Parce que l'employeur a l'obligation de faire soigner ses travailleurs.
Et si l'employeur ne le fait pas?
Et si l'employeur ne le fait pas, alors là, l'agent s'amène d'abord à l'hôpital, c'est le premier devoir. Il doit d'abord s'amener à l'hôpital.
Donc sa famille doit tout faire pour le...
Pour l'amener d'abord à l'hôpital. Parce que le premier devoir pour tous nos auditeurs, c'est qu'il faut qu'un médecin constate. Et là où il n'y a pas de médecin, un infirmier qui constate que non, il y a eu accident.
Et qu'on établisse un document.
Un document, on appelle ça un certificat médical.
Voilà.
Ça veut dire qu'il faut que l'hôpital puisse... Donc, c'est-à-dire la première preuve, c'est amener la personne à l'hôpital. Sinon, il va mourir.
Oui, bien sûr.
Ah, donc, quel que soit ce qui peut arriver, vous n'avez pas d'argent, il faut d'abord qu'on t'amène à l'hôpital. Et pendant qu'il est à l'hôpital, on informe votre employeur que non, nous avons réussi ici tel monsieur, ou bien nous venons d'amener quelqu'un à l'hôpital parce qu'il a connu un accident de travail ou un accident de trajet. Et que l'entreprise, maintenant, doit venir prendre en charge les soins médicaux, quant à elle, d'informer l'INSS, et l'INSS se mobilise pour venir également constater.
Et il faut informer l'INSS en délai de 15 jours.
Au-delà de 15 jours, vous êtes tous forclos, vous allez maintenant aller en justice pour vous battre, toi, la victime, et ton entreprise.
Deux auditeurs en ligne, Adrienne Amouyette, vous êtes à Lubumbashi, et Esther Oubedi à Magui. Adrienne, bonjour.
Bonjour, Jody Daniel, bonjour, maître Arifin Louko.
Bonjour, madame.
On vous écoute.
Ouais, moi, j'ai un témoignage.
Oui.
Dans une société de la plage, il y avait un frère de mon église. Après avoir exécuté son travail, il y avait son chef, je ne sais pas moi si son chef supervisait, alors lui avait demandé de faire encore, de l'aider dans un autre travail. Et quand il travaillait là, c'était un travail là, c'était au four. Mais après avoir travaillé, comme il n'était pas habitué de ce travail-là, il avait commis un accident. Mais quand le chef de cette société en question était venu là, il avait refusé de lui prendre en charge, qu'il soit en disant que non, toi tu avais déjà terminé ton travail, comment est-ce que tu peux encore faire ce que toi tu ne faisais pas, là ça ne nous regarde pas, et là ce n'est même pas un accident de notre société, là ça ne t'engage que toi-même. Alors ce que moi j'aimerais demander au maître Rifa Louko, qu'est-ce qu'il peut dire à propos de cette société? Est-ce que l'accident là, c'était l'accident du travail ou c'était juste l'accident je ne sais pas moi comment définir ça, ce que j'aimerais demander.
Adrien, dites-nous, c'est quel type d'accident? Il s'était blessé, qu'est-ce qu'il a eu exactement?
Il s'était blessé au niveau des doigts, je peux dire.
D'accord, merci. Esther Oubedi, vous êtes à Magui, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour les juristes et tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Esther.
Oui, merci pour le sujet du jour. Voilà, j'ai un sujet à présenter à monsieur les juristes et lui demander juste à critiquer ou à éclaircir mes points de vue. C'est-à-dire, j'ai un couple de la femme et d'infirmière. Voilà, elle se lève de bon matin et se prépare pour aller au boulot. Sur la route, elle fait un accident comme elle était sur moto. Et voilà, elle est conduite à l'hôpital. Et voilà, comme le traumatisme était si grave, le souhait dure 30 ans, 6 mois, une année. En fait, de compte, elle sort de l'hôpital paralysée et ne peut plus assumer ses devoirs domestiques et ses devoirs conjugaux. Alors, je voulais juste donner des modalités qui peuvent survenir de ces problèmes. La première des modalités, c'est que le mari de cette infirmière-là, il va tout droit à l'état civil, il va aller adresser une lettre de divorce. Je ne sais pas si les juristes peuvent nous présenter quelle modalité la loi présente pour ces cas, ou soit... Il renvoie la femme de chez elle, il dit, voilà, tu n'assumes plus ton travail, voilà, tu dois rentrer chez vous. Alors, la deuxième des modalités est que le mari, il dit, bon, comme je t'aime, voilà, l'accident est arrivé, j'accepte quand même que tu puisses rester là, mais je dois prendre une autre femme parce que tu n'arrives plus à assumer tes devoirs conjugaux. Alors, je voulais juste demander à monsieur le juriste de critiquer ou à éclaircir ce point de vue-là. Merci beaucoup.
Merci Esther. Merci Esther Obedi. Albert Mwananza, vous êtes à Kananga, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le juriste. Je m'appelle Mwananga Albert.
Albert Mwananga, à Mwananga Albert, on vous écoute.
Oui, je voulais tout simplement poser une petite question entre le sujet du jour.
Oui.
Oui, la première, j'aimerais savoir les mesures préventives prises au niveau de la loi concernant les gens qui tombent malades pendant les heures du travail. Et la seconde question, je demande à l'invité de nous préciser si la loi est appliquée au niveau des gens des personnes.
Merci Albert, Maître Ruffin.
Alors très rapidement, ce qui concerne la première, la sœur qui, dont son ami ou sa connaissance a connu un accident sur le doigt ou au doigt, n'est-ce pas?
Oui.
Pendant qu'on lui a prétendu que ce n'était plus à l'heure de service.
Il avait déjà fini son travail et l'un des chefs l'a demandé de venir prêter main force et voilà, pendant qu'il travaillait.
Non, ça c'est un accident de travail.
Il connaît un accident.
Non, ça c'est un accident de travail.
Oui.
Madame, donc quel que soit le moment où ça peut arriver, aussi longtemps que tu étais au service, pour telle ou autre raison. Parce qu'en fait, les entreprises, lorsque le service se termine, on ferme le bureau. C'est-à-dire, un agent n'a plus de raison de rester au service. S'il y reste pour tel ou tel autre motif ou qu'on l'y laisse, et un accident y arrive, c'est un accident de travail. C'est un accident de travail. À moins qu'on établisse que non, on avait déjà fermé, il a cambriolé, et il est entré pour voler, et il y a eu un accident.
Voilà,
mais tant qu'il a été sollicité pour tel ou tel autre motif, d'aider, de prêter main forte, ou d'aider, par exemple, ça peut être aider à fermer le portail.
Oui. Et l'entreprise doit prendre en charge.
Oui, non, c'est automatique. Donc, madame, en ce qui concerne celui-là, c'était un accident de travail.
Et maintenant, comme l'entrepreneur refuse, l'employeur.
Non, non, il doit se plaindre. Il doit se plaindre très rapidement.
Oui.
D'abord, lui, il doit prendre tout pour annoncer à l'INSS. Parce que là, l'employeur ne l'annoncera pas. Il annonce à l'INSS. Et si rien n'arrive, il va au parquet ou au tribunal pour, n'est-ce pas, se plaindre. Et généralement, ils sont toujours condamnés, les entreprises qui ne prennent pas en charge les travailleurs.
Okay.
Ça, c'est à qui concerne notre sœur qui a posé la première question. Alors, en ce qui concerne Madame Esther Abedi, de l'infirmière, n'est-ce pas, qui commet un accident, n'est-ce pas, sur les trajectoires. Donc, un accident de trajet.
Qui avait pris un moto et voilà.
Et à l'hôpital, et puis il y a ce qu'on appelle la consolidation du sinistre. Consolidation, ça veut dire la situation s'est aggravée après le temps.
Oui, elle était paralysée. Alors,
paralysée finalement, donc ça veut dire c'était une incapacité. Provisoire qui est finalement une incapacité presque permanente et qui entraîne ensuite le divorce. Alors, la loi prévoit que toutes ces consolidations-là, c'est-à-dire l'aggravation de la situation, vous devez mettre l'INSS au courant parce qu'à chaque consolidation, il y a une indemnité. Donc, à chaque gravité, il y a une indemnité. Non. Alors, En ce qui concerne la réparation, il y a la réparation en nature. La nature, ça veut dire assistance médicale, l'examen médical, le produit pharmaceutique, l'entretien, n'est-ce pas, dans un hôpital approprié, y compris la nourriture, évidemment, parce que nos hôpitaux ne donnent plus la nourriture, parce que lorsque vous devez être soigné, vous devez également être alimenté en nourriture.
C'est ce qui n'est pas le cas.
Alors, tout ça, il faut réclamer, c'est prévu par la loi. Il y a les soins dentaires pour ceux qui ont connu des lésions dentaires.
Oui.
Il y a, n'est-ce pas, ça, c'est dans la réparation en nature. Il y a les frais de transport de la victime d'il lié d'accident à l'hôpital approprié, ça peut être, on dit non, pour ça il faut qu'on t'en, parce que je me rappelle qu'il y a eu un accident qui s'est passé à Nisiro et que la personne devait être opérée à Bukavu par le docteur Mukwege. Et là, de Bukavu jusqu'à Nisiro jusqu'à Bukavu,
oui,
ces frais-là sont pris en charge.
Les frais de transport. Hein.
Des frais de transport, oui, c'est pris en charge par soit l'employeur, soit l'INSS. Dans tous les cas, si l'employeur le plan, l'INSS doit les rembourser.
Mmh.
Et il y a les fournitures, entretien et renouvellement des prothèses. Tout ça, c'est dans la réparation en nature.
Mais maintenant, jusqu'à quelle hauteur l'entreprise va prendre en charge les frais médicaux?
Mais
est-ce qu'il y a une hauteur, il y a un seuil qui est déterminé?
Il n'y a pas d'essai, c'est jusqu'au rétablissement.
C'est jusqu'au rétablissement.
Et ça, parce que ce n'est pas lorsque c'est un accident de travail, parce que l'entreprise est en train de cotiser à charge des travailleurs, si l'entreprise prend tout ça en charge, l'INSS doit lui rembourser.
Est-ce que vous êtes sûr que plusieurs entreprises ont affilié leurs membres à l'INSS?
La plupart des grades, la Régie des eaux, la SNL, même les maisons cellulaires ici, la plupart sont obligatoirement affiliées et vérification faite, toutes ces entreprises sont affiliées. Ce sont les petites entreprises par-ci, par-là, qui naissent comme des tiges en pignon en province, qui ne sont pas affiliées. Parce que l'INSS et l'INPP ont des inspecteurs pour vérifier pour chaque entreprise si vous êtes affilié. Donc c'est obligatoire, ce n'est pas facultatif.
Bien, on y revient tout à l'heure, le temps d'accueillir Clément Mouya, qui nous appelle d'Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour.
On n'a pas répondu à Albert.
On va répondre tout à l'heure. C'est le temps d'accueillir Clément.
Je vous en prie.
Bonjour Clément.
Oui, j'ai dit bonjour, j'ai dit aussi bonjour à l'invité.
Ok, on vous écoute.
Oui, je voulais un peu poser la question à notre invité. En matière maintenant d'administration de la preuve d'accident de trajet et de accident de travail, et qui en est habilité à pouvoir donner les preuves convaincantes à l'autre partie? Est-ce le travailleur pour se débarrasser de la prise en charge ou le travailleur pour se charger l'entreprise à pouvoir le prendre en charge, ou ce sont les tribunaux qui sont compétents pour administrer la preuve? Ça, c'est un peu la première question. Et la deuxième question, en matière d'accident de travail, est qu'un travailleur est tombé d'une hauteur vers le bas et qu'il est fracturé ou il a manipulé une des manches par après à cause seulement du fait qu'il est sorti d'une hauteur vers le bas. Jusqu'à quand l'employeur doit le prendre en charge en cas de cette demande due à l'accident de travail? Voilà un peu ma petite préoccupation.
Merci Clément Mouya. Blanchard Louana, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit.
On vous écoute, Blanchard.
Oui, j'aimerais poser la question à l'invité.
Oui.
Est-ce que les journaliers aussi ont un droit par rapport à la prise en charge en cas d'un accident de travail?
Merci Blanchard. Maître Ruffin.
Oui, mais il y a plusieurs questions, si on n'y répond pas systématiquement.
Oui, il faut y aller rapidement.
Alors, en ce qui concerne les mesures préventives,
oui,
des gens qui tombent, n'est-ce pas? Ça, c'est la question d'Albert. Quelles sont les mesures préventives? Les mesures préventives, c'est principalement d'abord les transports organisés par l'entreprise. Vous voyez, par exemple, la Monisco organise les transports à tous ses agents.
Mm-hmm.
Parce que là, déjà, c'est une mesure préventive pour qu'ils ne montent pas sur des motos ou sur des toles, n'est-ce pas, qui s'engagnent pour tomber tout le temps.
Oui.
Parmi les mesures préventives pour les gens qui tombent sur le trajectoire,
mm-hmm,
eh bien, il faut organiser un transport public, ça met, n'est-ce pas, avec une chauffeur,
ça met
en l'abri, en sécurité, parce qu'ils sont transportés dans un bus et non dans des vélos, sur des vélos et consorts. Alors, en ce qui concerne la preuve,
l'administration de la preuve,
l'administration de la preuve, c'est principalement la victime et sa famille. Ça peut être un accident mortel et la personne meurt, donc c'est sa famille qui doit donner la preuve. Et comment on donne la preuve? C'est que lorsqu'il y a accident, la police de roulage, la police de sécurité routière, eh bien, elle est là, la PCR, police spéciale de roulage. Elle est là pour constater d'abord.
Pour faire
les constats. Et la police, lorsqu'il y a des preuves qui sont établies, c'est la première preuve.
Mm-hmm.
La seconde preuve, c'est le certificat médical, c'est-à-dire amener la personne à l'hôpital. Ça, c'est obligatoire. Donc, j'insiste, c'est comme en matière de violence sexuelle, l'expertise médicale est une pièce fondamentale.
Mm-hmm.
Ici, en ce qui concerne les accidents de travail, le certificat médical est une pièce fondamentale en ce qui concerne l'administration de la preuve. Donc, un, constat par l'OPJ ou la police. Deux, amener la personne à l'hôpital pour qu'un médecin,
établir un certificat.
Alors, il faut donc qu'un médecin constate pour, n'est-ce pas? Alors ça, c'est principalement les personnes qui doivent administrer la preuve.
Voilà.
Alors, en ce qui concerne le journalier.
Alors, il a dit aussi, les travailleurs qui tombent est fracturé ou bien il fait une démence.
Et une démence.
Alors, jusqu'à quel moment, à quelle hauteur, l'entrepreneur doit
prendre ça devient une incapacité plus ou moins permanente si on a des preuves qu'elle ne peut pas guérir. Alors là, il y a une indemnité globale, c'est-à-dire on peut apprécier les montants, ça veut dire soit 30 000 dollars, 50 000 dollars, l'équivalent en francs congolais. Donc, un montant global au lieu de continuer à lui donner l'argent jusqu'à la fin de sa vie. Évidemment, à cette personne qui est devenue démente, c'est sûr, c'est en cause ou en droit, c'est-à-dire sa famille, ses enfants, sa femme, qui
on doit engager quelqu'un de sa famille.
Ouais. Oui, absolument. C'est souvent l'épouse ou l'enfant aîné, le majeur, pour, n'est-ce pas, amorcer le processus de la perception de cet argent-là, qui pourra les permettre peut-être d'acheter une parcelle ou de construire quelque part une petite boutique pour les aider, n'est-ce pas, à pourvoir aux besoins que le papa de la famille, si c'était le papa, pouvait, n'est-ce pas, combler lorsqu'il était là lui-même.
Maintenant, un journalier.
Alors, les journaliers, le code du travail prévoit que les journaliers qui fait sur un intervalle de 2 mois, 30 jours de travail, il n'est plus journalier. J'insiste, si vous êtes journalier dans une brasserie, c'est généralement là où on nous voyait déjà être utilisé dans des brasseries, je ne cite pas les noms, où on utilise déjà comme des journaliers. Si la personne comptabilise 30 jours sur un intervalle de 2 mois, 30 jours où il a travaillé jour pour jour, 30 jours,
il n'est plus journalier.
Pas nécessairement que ces jours-là se suivent, ça peut être sur les 2 mois, là, vous avez travaillé le
généralement, lundi. Généralement, on dit, vous travaillez aujourd'hui et puis allez vous reposer,
allez vous reposer, plus tard. Alors, si vous comptez 30 jours au-delà de 2, sur un intervalle de 2 mois, vous n'êtes plus journalier, vous devenez un travailleur à durée, à contrat à durée indéterminée.
Donc, s'il y a un accident survient à ce moment-là,
vous êtes plus en charge, il faut poser le problème.
Il faut poser le problème
à l'employeur, et s'il ne fait rien, vous allez à l'INSS, vous vous déclarez.
Alors, Alfred de Kananga dit, quelles sont les mesures préventives à prendre pour ceux qui tombent malades au lieu de travail?
Les mesures préventives, c'est d'abord l'hygiène au travail. L'hygiène au travail. Et puis, parmi les mesures préventives que la loi oblige les travailleurs à prendre, les employeurs à prendre, c'est les médecins de l'entreprise. Les médecins de l'entreprise. L'entreprise doit avoir des médecins. Pour que chaque fois, tu vois, par exemple, les écoles ont l'obligation d'avoir un médecin de l'école. Pour que s'il y a une maladie à l'école, les médecins interviennent immédiatement. Et les hôpitaux sont obligés, non, les sociétés ou les entreprises sont obligées d'être affiliées ou abonnées à des hôpitaux.
Pour que certaines entreprises ont des dispensaires.
Par exemple, l'Archidiocèse a des dispensaires ou la SNEL.
Oui.
C'est dans ces prix nationaux. Ils ont des dispensaires et immédiatement, la personne, donc, en termes de prévention, avoir votre dispensaire, c'est une prévention. Autre prévention, l'hygiène au travail. Et les contrôles de l'assainissement des conditions de travail sont parmi, n'est-ce pas, les mesures de prévention, n'est-ce pas, pour ne pas permettre.
Et revenons rapidement et terminons avec la question d'Esther. Est-ce que le mari a le droit d'abandonner sa femme qui était tombée
Bon, ça, c'était notre chapitre.
Et la femme est paralysée aujourd'hui. Est-ce qu'il a le droit de l'abandonner?
Bon, en principe, non. En principe, si elle a mouru, il ne peut pas l'abandonner, en principe.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire parce que le mari doit l'assister. Et c'est le mari qui doit suivre la procédure, l'indemnisation de son épouse, parce que l'accident a eu lieu pendant que cette épouse qui était infirmière était en train de se diriger à l'hôpital. Donc, en principe, le mari ne doit pas abandonner son épouse uniquement parce qu'il a connu un accident. Vous vous êtes juré de vous aimer pour le meilleur et pour le pire. Et si ce pire arrive, vous devez savoir exprimer ton amour suffisamment pour démontrer à cette femme que non, vous l'aimez même pendant qu'elle était belle pour toi. Elle est demeure, et même l'accident, c'est d'ailleurs le moment le plus particulier pour le priver davantage que vous l'avez toujours aimé.
Maître Yvon Louko, je vous remercie.
Je vous en prie.